Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel bonheur de commencer le week-end en votre compagnie avec un nouveau numéro de Nous voilà bien jusqu'à 10h sur RTL. On se réjouit chaque samedi à l'idée de vous transmettre nos bons conseils et vous faire la vie plus douce et pratique. Alors on y va, c'est parti, sommaire. À l'heure où un vêtement sur deux est acheté en promotion, le marché du déstockage a de beaux jours devant lui. Les villages de marques et les sites de vente privée se partagent ce juste marché où les réductions peuvent atteindre, écoutez bien, jusqu'à moins 85%. C'est alléchant, non? Mais la qualité des vêtements est-elle vraiment la même qu'en boutique traditionnelle et où faire les meilleures affaires? Réponse avec Laura Orozmann, journaliste du magazine Capital sur M6. Huile d'olive, de tournesol, de noix, de sésame, on a l'embarras du choix au rayon des huiles alimentaires. Utilisées chaudes pour la cuisson ou froides en assaisonnement, les huiles végétales réveillent le goût et les saveurs. Mais lesquelles privilégiées? Sont-elles toutes de qualité? Et surtout, quelle huile pour quel usage? Eh bien, on va faire le point avec Angèle Ferremac, chef naturopathe et créatrice de la guinguette d'Angèle. Incontournable des brasseries parisiennes, le croque-monsieur, c'est ce savoureux sandwich à la française. Il est pratique, économique et il est facile à réaliser. Et puis si l'on l'aime dans sa version classique, on peut aussi être tenté de le réinventer. Alors comment préparer un croque-monsieur dans les règles de l'art et comment le décliner avec originalité? Réponse avec Sonia Esguignon, cuisinière, auteure et journaliste.
Nike, Gap, Diesel, Chanel, Cacharel, Van Cleef et Arpel, Hermès.
Laura Orozmann, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL, vous êtes journaliste du magazine Capital sur M6. Les secrets des champions du discount, ce sera donc ce dimanche 24 octobre à 21h05 sur M6. C'est quoi un village de marque en fait, Laura? Combien y en a-t-il en France et où sont-ils implantés?
Alors, un village de marque, en fait, vous connaissez tous, j'imagine, les magasins du
ouais.
En fait, c'était ces temples des bonnes affaires où il fallait un peu fouiller dans des bacs, essayer de trouver la bonne taille, la bonne couleur. Et en fait, les magasins d'usine, ce sont les ancêtres des villages de marques. Aujourd'hui, à part les promotions, ils n'ont plus grand-chose à voir avec ça. Mmh. Aujourd'hui, ça ressemble vraiment à un village, en fait. C'est comme ça que ça a été construit par les promoteurs. Il va y en avoir 26 dans toute la France. Et chacun va avoir un peu sa spécialité. Dans celui qu'on a tourné, c'était à Roppenheim, près de Strasbourg. Le promoteur lui a recréé l'univers d'un petit village alsacien, avec en guise de boutique des petites maisons à colombages. Il y a même des aires de jeux pour les enfants, des restos, des cafés et même un lac artificiel. Et chaque région va avoir sa spécialité. On est un peu en fait dans le Disneyland de la promo. Tout est fait pour vous faire oublier que vous achetez des fins de stock.
Et est-ce qu'on trouve les mêmes vêtements sur les sites de vente privés comme Showroom Privé, je pense à The Braderie ou Brandelay, qu'en village de marque? Est-ce que c'est la même chose?
Alors a priori oui, parce que ce sont deux circuits de déstockage et en fait ils vont se battre pour décrocher les mêmes marques. Ouais. Le village de marque, l'avantage c'est que la marque va maîtriser son circuit. Pour elle c'est un canal de distribution à part entière. Sur les sites de vente privée, on va pouvoir retrouver les mêmes grandes marques, Lacoste, Puma, mais on va aussi avoir des marques plus confidentielles qui ne sont présentes parfois que sur Internet et qui ont eu besoin de déstockage un peu plus ponctuel.
En fait. Je me demandais en fait, acheter des vêtements en village de marque, est-ce que c'est forcément acheter des vêtements, je dirais, qui sont démodés?
Alors oui, forcément. Ouais. C'est une des règles en fait
soi,
dans ces villages.
En soi, est-ce que c'est grave?
Non, pas forcément.
On est d'accord.
On va retrouver la collection de l'année passée.
Ouais.
Il faut relativiser un petit peu parce qu'un pull noir reste un pull noir 2020, 2021, 2022.
Mais tellement.
Il peut ne pas vraiment changer.
D'accord, ok. Je pense au basket un peu iconique, c'est la même chose parce que là, c'est vraiment la tendance du moment. Il faut toujours avoir la dernière paire.
Il peut y avoir la dernière paire. Alors ce sera le pas forcément le dernier modèle, la même référence, mais concrètement oui, vous allez pouvoir retrouver une basket si je peux en citer Stan Smith, des Nike très correctes. Ce sera pas la vraie dernière basket, mais nous les gens qu'on a rencontrés dans les villages de marque, ils font pas vraiment la différence. Ils viennent chercher un prix, une marque, et ils trouvent ça en fait.
Alors qui dit village de marque dit marque évidemment. Est-ce qu'on y retrouve aussi les marques de luxe, Vuitton, Dior, Chanel et compagnie?
Alors moins. En fait, il y a un village qui fait référence pour le luxe, c'est la Vallée Village à côté de Marne-la-Vallée. Là-bas il y aura une concentration plus importante de marques de luxe dégriffées. Il y a Gucci, Céline, Prada, mais il y a certaines marques qu'on ne verra pas du tout. Hermès, Chanel ou Dior, elles ne seront pas dans ces villages-là.
Où est-ce qu'on fait les meilleures affaires? Sur les sites de vente privée ou en village de marque?
Il y a une chose à retenir. En village de marque, moins 30% de réduction minimum toute l'année. C'est un peu la règle. Il peut y avoir des périodes de promo en plus. Hein. Les soldes, forcément, elles sont aussi appliquées en village de marque. Mais toute l'année, 30%. Sur le site de vente privée, leur objectif, eux, c'est de faire des coûts. Donc les promos vont être plus agressives. Minimum 50% dès le début. Et ensuite, on va pouvoir aller à moins 60, moins 70, moins 80, même moins 90%. En fait, voilà, c'est un peu la différence qu'il faut retenir.
Puis c'est pas la même démarche d'achat. Hein. On a bien compris que le village de marque, il vous accueille, il vous prend la journée. Bon, les sites de vente privée, c'est quand même autre chose et c'est un clic. Pourquoi les boutiques classiques disposent-elles d'autant d'invendus? En fait, ils achètent trop en prévision d'une revente en outlet ou pas?
Alors ça, c'est une des choses qu'on va apprendre dans le reportage de Capital de dimanche. En fait, les invendus, c'est pas seulement des erreurs, des accidents de production. C'est pas parce que les marques ont fait trop de pièces trop originales, un peu moches parfois, et qu'ils n'ont jamais trouvé preneur. En fait, c'est un élément structurel de l'industrie de la mode. Pour faire fonctionner une boutique, une marque a besoin d'acheter au-delà de ses prévisions de vente. Ouais. Le chiffre qui circule, nous, qu'on a entendu, c'est que dans la profession, c'est 20 à 25% d'achats supplémentaires. Alors, pourquoi? En fait, pour attirer des clients, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il faut que la boutique ne soit jamais vide. Elle doit toujours avoir des vêtements à proposer sur les cintres, dans les rayons, et donc elles sont un peu trop fournies à chaque fois.
Okay.
Et l'autre problème, c'est que les marques sortent de plus en plus de collections. Nous, la marque qui nous a ouvert les portes, c'est une marque de chemise, un produit très classique, mais eux aussi vont faire 10 collections par an.
Voilà, et puis il y a les fameuses collections capsules aujourd'hui. Hein, on consomme en fait des vêtements parfois sur l'espace de 3 mois. Quoi, hein. Il y a régulièrement des nouvelles collections qui sont proposées. Est-ce qu'on est garanti d'acheter des vêtements plus récents sur les sites de vente privée qu'en village de marque? Est-ce qu'ils ne font pas en fait aussi parfois du neuf avec du vieux?
En village de marque, vous allez plus certainement trouver des vêtements de la saison d'avant. D'accord. N-1. En fait, dès que les soldes sont passés, ces vêtements vont sortir des boutiques et hop, aller alimenter l'outlet. Pour les ventes privées, en fait, parfois, elles peuvent mixer les collections de l'année précédente, la N-1, mais aussi des lots plus anciens. Et c'est un peu une astuce qu'on a découvert, nous, pendant l'enquête.
D'accord. On va se retrouver dans un instant, parce qu'on n'en a pas fini avec vous, Laura Roseman. Encore des questions à vous poser dans Nous Voilà Bien. Ensuite, on parlera des huiles végétales avec Angèle Ferremagde. Et puis, on parlera du croque-monsieur. Voilà ce qu'on va cuisiner ce week-end. À tout de suite sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Merci d'être avec nous. Nous voilà bien. C'est votre rendez-vous pratique et conso du samedi matin. On est ensemble jusqu'à 10h. On va parler des huiles végétales parce qu'on a parfois du mal à faire le point. Angèle Ferremagde va nous y aider. Et puis ensuite, on parlera de la variation autour du croque-monsieur, madame monsieur. Eh oui, mais pour l'heure, allez, on va dans les villages de marque avec Laura Roseman. On a bien compris, Laura, que faire ses courses en outlet, c'est toujours intéressant, que ce soit sur les sites de vente privée ou les villages de marque. Capital va consacrer son émission du dimanche 24 octobre au secret des champions du discount. Alors évidemment, on avait envie d'en parler puisque c'est demain soir, mais on en parle ce matin grâce à vous aussi sur l'antenne d'RTL. Est-ce que certaines marques vendent des vêtements avec des défauts ou alors des collections spéciales de moindre qualité qui sont destinées exclusivement à l'outlet?
Déjà, les collections spéciales, qu'est-ce que c'est? C'est des collections fabriquées spécialement pour l'outlet. C'est une pratique qui est illicite parce que ces boutiques, par essence, elles doivent être normalement remplies de fin de série, de vêtements déstockés. L'intérêt pour les marques qui pratiquent ça, c'est que ça permet de remplir les boutiques et certaines produisent aussi des produits de moins bonne qualité. Ça leur permet d'afficher des prix bas sans perdre de marge, en fait. Et ça, c'est une réalité qu'on avait déjà montrée dans une enquête il y a 4 ans dans Capital. Et pour ce nouveau numéro, en fait, on voulait savoir si les marques continuaient de s'affranchir de cette règle. Et en fait, à notre grande surprise, vous le découvrirez dimanche, on a trouvé encore des qualités différentes entre des vêtements outlet et des vêtements des boutiques classiques. Il semblerait que ça continue encore.
D'accord, donc il faut se méfier, il faut bien regarder ce qu'on achète, hein, si je vous écoute.
Exactement, à chaque fois, de toute façon, comparer, essayer d'avoir des prix en tête, des qualités aussi en tête, c'est un peu le
Il faut regarder le vêtement, quoi.
Hein. Oui, le conseil qu'il faut donner aux consommateurs.
Que deviennent les invendus les invendus de ces villages de marques, en fait? Est-ce qu'on recycle en permanent jusqu'à ce qu'on ait épuisé les collections?
Eh bien oui, en fait, c'est un peu le paradoxe. Malgré toutes les promos qu'il peut y avoir, il y a forcément, en fin de chaîne, des articles passés de mode, trop moches, trop grands, et ils n'ont pas trouvé preneur. Et avant, en fait, certaines de ces marchandises pouvaient partir à la destruction. C'était une pratique taboue dans le secteur, mais qui était une réalité. Et normalement, à partir de janvier, ça sera plus possible. Il y a une loi, la loi anti-gaspillage, qui va entrer en vigueur, qui va interdire la destruction des invendus.
C'est bien.
Et nous, on l'a constaté, il y a certains déstockeurs qui proposent déjà de donner en fait leurs invendus, qui sont les invendus des invendus, à des associations caritatives.
Super. Ce sera obligatoire, ça?
ce sera obligatoire, en tout cas, de trouver une deuxième, voire troisième vie, en fait.
Ah, génial. Très bien. Est-ce qu'on peut échanger, se faire rembourser si on achète des vêtements en village de marque ou sur les sites de vente privée?
Alors ça, c'est une très bonne question. Pour les villages de marque, en fait, il n'y a aucune obligation réglementaire, mais c'est comme dans n'importe quelle boutique. On ne le sait pas forcément, mais la seule obligation d'un commerçant, c'est de reprendre un vêtement s'il est défectueux. On le constate par contre tous les jours, c'est que toutes les boutiques permettent l'échange et le remboursement. Dans la boutique outlet, c'est pareil. En fait, ça va dépendre de la marque, mais en règle générale, elles le font. En moyenne, c'est 30 jours. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a pu constater. Donc, c'est faisable.
Okay.
Sur Internet, on est en fait un peu plus protégé. En tout cas, là, il y a une loi. Il y a le droit de rétractation du consommateur. Peu importe la raison, vous avez minimum 14 jours pour retourner, renvoyer l'article et se le faire rembourser. Et ça, généralement, les sites de vente privée, ils l'appliquent et ils vont même aussi au-delà de ces 14 jours réglementaires.
Génial. Bon, bah, c'est bon à savoir. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Laura Orosmann. On retrouve donc votre reportage demain sur M6 à 21h05 dans Les Secrets des Champions du Discount. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Salut Laura.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Mais de lui le petit homme dans la ville, faut que ça glisse. De lui le petit homme, écoute, écoute.
Mais de lui le petit. Salut Angèle Firemat.
Bonjour Flavie.
Comment ça va?
Mais ça va, je suis très contente de vous écouter parler d'huile.
Aussi. Oui, alors oui, exactement. Mais de l'huile, là, ça glisse. Vous êtes chef et naturopathe, Angèle. Et dites-moi, alors c'est vrai qu'on a toujours du mal à s'y retrouver hein, dans les huiles. Quelle quantité quotidienne d'huile végétale doit-on déjà consommer? Est-ce que notre corps a besoin d'huile?
Oui, notre corps en a besoin. On doit en consommer entre 2 et 4 cuillères à soupe d'huile végétale, donc cuisson et assaisonnement confondus, par jour. Parce qu'en fait, les huiles contiennent des acides gras essentiels. Donc, ce sont des choses qu'on ne peut pas produire nous-mêmes. Donc, les oméga 3, les oméga 6, notre corps ne le fabrique pas.
Okay.
Il faut donc aller le chercher ailleurs, donc dans l'alimentation. Donc, ça joue un rôle essentiel, notamment dans notre cerveau, dans notre peau, dans notre santé en général.
Donc, ça semble essentiel pour nous. Alors, est-ce qu'on doit systématiquement acheter, je dirais, de l'huile en magasin bio? Parce qu'il y a les huiles raffinées aussi, hein, qui sont vendues en plastique, dans des bouteilles en plastique, vous savez, dans les supermarchés. Est-ce que celles-ci sont aussi bonnes que les autres?
Pas du tout, parce qu'à partir du moment où c'est dans des bouteilles en plastique et pas colorées, ça veut dire que ce sont des huiles qui sont tellement trafiquées, tellement chauffées, qu'elles sont stables. Donc c'est génial pour les industriels parce qu'elles ne bougent pas, ça peut durer des années et des années. Mmh. Le problème, c'est que les huiles, c'est censé rancir, c'est des produits vivants et c'est plein de bonnes choses. Et il faut surtout choisir des huiles extra vierges. Donc non, ça n'est pas obligé d'en acheter dans les magasins bio, on peut en trouver dans les grandes surfaces. En revanche, il faut toujours essayer de choisir huile vierge, première pression à froid, extra vierge. Toutes celles-là.
Et dites-moi, on va peut-être distribuer les mauvais points. Il y a des marques d'huile vendues en supermarché qui sont à proscrire.
Je peux dire ça, Flavie, vraiment.
Mais ouais, si vous nous en donnez 3, allez, on y va. Quoi.
Alors, allez, non à Isio 4, non à Fruit d'Or et non à Le Sieur. Mais par contre, oui à Émile Noël, oui à Jean Hervé, oui à l'huile Rivigen. Ça, c'est des bonnes huiles.
Bon, très bien. Voilà, les bons points et les mauvais points d'Angèle Ferremacht. Alors, on l'a compris, oméga 3, oméga 6, enfin, il y a plein de bonnes choses dans les huiles végétales. En termes de goût et de propriétés, selon vous, quelles sont les meilleures? Parce qu'il y a plein d'huiles qu'on ne connaît pas aussi, donc on ne sait pas trop vraiment comment s'en servir, Angèle.
Les plus riches en oméga 3, c'est l'huile de cameline, l'huile de germe de blé, l'huile de pépin de courge, l'huile de sésame, l'huile de lin, l'huile de chanvre, l'huile de graines de chia, pourquoi pas.
Mais je vous et arrête, en fait, pourquoi est-ce qu'on n'ose pas s'en servir? Parce qu'on ne les connaît pas?
Exactement, parce qu'on ne les connaît pas, parce qu'elles coûtent plus cher aussi. Donc, on choisira. Alors, dans les magasins bio, on trouve des petites bouteilles. Alors, comme je disais tout à l'heure, on reconnaît les bonnes huiles parce qu'elles sont dans des bouteilles en verre, teintées, et qu'elles se conservent au frigidaire, en fait.
Ah bon?
Donc, elles ne supportent pas la chaleur du tout. Et d'ailleurs, il ne faut surtout pas les utiliser pendant la cuisson. On les met en fin de cuisson, sur les salades, sur les légumes, sur les soupes, ce que vous voulez, mais après. Donc, on a toujours notre huile d'olive qu'on va utiliser un petit peu comme d'habitude, un peu pour tout. En revanche, on peut ajouter ces bonnes huiles pour vraiment apporter donc déjà des goûts différents, incroyables. Moi, je pense que quand on a un peu peur de se lancer, on commence par une ou deux huiles. Donc, on achète par exemple une petite bouteille d'huile de cameline, une petite bouteille d'huile de noisette.
Ouais.
Et on en mettra un petit peu en cru plus pour goûter, pour voir les saveurs. Et en fait, très vite, on devient addict parce que finalement, c'est pas utile de faire mijoter des plats des heures, de faire des sauces pas possibles. Les bonnes épices et les herbes aromatiques, ça suffit largement à D'accord. faire des plats du quotidien, des super bonnes choses.
Alors attendez, parce que si je récapitule, donc ces fameuses huiles que vous nous conseillez ce matin sur RTL, donc cameline, pépins de courge, huile de lin, huile de chanvre ou huile de graines de chia, je ne savais pas que ça existait. On les achète en rayon dans les magasins bio, on va dire, mais dès l'heure où elles sont ouvertes, on les conserve au réfrigérateur.
Exactement, on d'accord. les garde au frigo.
Contrairement à l'huile de tournesol ou contrairement à l'huile d'olive, on est d'accord.
Voilà, celle-ci, c'est pas utile.
On va se retrouver dans un instant, Gilles Ferremac. J'ai encore plein de questions à vous poser. Quelles sont celles qui sont bonnes pour le cœur, contre le cholestérol, blabli, blabla. On va prendre soin de notre santé. À tout de suite sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Je ne sais pas vous, mais moi je me ferais bien un petit monsieur, enfin un croque-monsieur, évidemment, ce sera dans un instant avec Sonia Esguillan. Mais pour l'heure, on parle des huiles avec Angèle Ferremac. Ma chère Angèle, on apprend plein de choses avec vous ce matin. Vous êtes naturopathe, vous êtes chef et créatrice aussi de la guinguette d'Angèle à Paris où l'on se régale. Dites-moi, vous nous parlez des huiles de cameline, de germe de blé, toutes ces huiles qu'on ne connaît pas. On a bien compris qu'en fait, il faut les acheter dans une bouteille en verre, une bouteille teintée pour protéger l'huile et surtout pas les bouteilles en plastique, ça n'est pas bon. Idéalement bio, hein, même si elles sont plus chères, on peut les acheter en petites bouteilles et on les conserve au réfrigérateur. Plusieurs choses, est-ce que ces huiles dont vous nous avez parlé, on peut les mélanger?
Oui, allons-y, mélangeons gaiement. Super. Parce qu'en fait, on a besoin de ces acides gras essentiels, des oméga 3, 6 et 9, parce qu'on les, comme on disait, on les fabrique pas nous-mêmes. Donc, on peut vraiment les mélanger parce que chacune des huiles vont nous en apporter des différents. Donc, on peut y aller.
Ok, quelles sont les meilleures pour la santé?
Les meilleures pour la santé, bah pour le cœur et le cerveau, ce sera les huiles qui seront les plus riches en oméga 3.
D'accord.
Donc, le chanvre, la cameline et le colza. Alors attention, comme on disait, elles sont très sensibles à la température et ne se chauffent jamais.
On va faire un petit jeu, vous me répondez avec les huiles. Les huiles à utiliser pour assaisonner les salades et les plats.
Huile de noix.
Huile pour la vinaigrette, les mayonnaises.
Huile de sésame.
Les huiles pour la friture et les wok.
C'est plutôt huile d'olive qui est quand même assez stable. Et l'huile de sésame ou d'arachide.
Quand je fais des frites, par exemple, ce qui ne m'arrive jamais, mais admettons que je me mette à faire des frites, je jette l'huile après la friture ou je la réutilise?
Si on veut refaire de la friture et dépenser moins d'argent, on peut évidemment la réutiliser. Moi, je conseille vraiment de le faire de façon exceptionnelle. Et quand on la jette, de prendre le temps de la recycler et pas de la jeter dans nos canalisations, que ça risque de se boucher d'ailleurs.
On fait comment alors?
Il y a des organismes, on peut se renseigner un peu sur Internet, ça dépend de nos quartiers, ouais. mais on peut aller déposer nos bidons d'huile usagée. Alors je sais que c'est un petit peu, ça prend du temps, etc. Mais c'est vraiment un acte citoyen qui est important. Des huiles qui seront réutilisées.
Très bien. Quelles huiles pour la pâtisserie?
Ah, pour la pâtisserie, moi j'ai presque envie de vous donner une recette. Je ne sais pas si j'ai le temps.
Bah, allez-y.
Ah, bah super. Bah, pour la pâtisserie, moi j'adore encore une fois l'huile de sésame pour par exemple des cookies au chocolat blanc. Mais alors, il y a une recette inratable que j'adore faire, c'est le gâteau au chocolat à l'huile d'olive. Alors, pour ce gâteau, on va mélanger dans un saladier 150 ml d'huile d'olive, 60 g de poudre de cacao. On va faire une petite pâte avec un petit peu d'eau chaude, très peu, juste le temps d'obtenir une petite pâte. Ou alors 150 g de chocolat fondu, selon ce qu'on a chez nous. On va prendre une gousse de vanille ou un peu d'extrait de vanille, si on a ça chez nous. 160 g de poudre d'amande ou 160 g de farine. Une cuillère à café de bicarbonate de soude, une pincée de sel, 150 g de sucre en poudre, 3 gros œufs. On va tout bien mélanger en évitant les grumeaux. On le met au four 45 minutes à peu près à 160 degrés. Et on a un gâteau au chocolat sans beurre, sans gluten, délicieux, à l'huile d'olive. Et je vous assure que le mélange huile d'olive cacao, c'est absolument exquis.
Eh bien voilà, on sait ce qu'on va faire. Allez, dernière question. Vous conseillez de faire des bains de bouche avec de l'huile? Est-ce qu'on peut en mettre sur la peau ou sur les cheveux?
Mais bien sûr, le bain de bouche à l'huile d'olive, c'est une pratique ayurvédique très ancienne qui s'appelle le ganoucha. Mais on peut aussi en mettre sur les cheveux pour s'inspirer des secrets de beauté des Tahitiennes. Donc l'huile de coco, ce sera l'huile ouais. plus appropriée pour les cheveux. En revanche, surtout pas l'huile de coco sur la peau, ça fait des petits points blancs.
D'accord,
et donc sur la peau, je conseillerais plutôt l'huile de chanvre.
Okay.
Et évidemment, quand on l'utilise en cosmétique, je vous conseille de l'acheter au rayon cuisine. Ça coûte 10 fois moins cher. c'est les mêmes.
Et dernière chose, les bains de bouche, donc je prends de l'huile d'olive comme ça et je fais des gargarismes.
Alors je conseille plutôt l'huile de sésame.
D'accord.
Donc à jeun, au réveil, en fait on fait un bain de bouche. L'idéal c'est de le faire au moins 10 minutes, donc pendant qu'on prend notre douche, tout ça, ça c'est l'idéal. Mais en fait l'huile, je sais que ça paraît bizarre, évidemment on n'avalera surtout pas cette émulsion délicieuse pleine de bactéries. Hein. Ah, on la recrachera et dans la poubelle c'est mieux, encore une fois, que dans nos canalisations. Le bain de bouche à l'huile, ça va permettre de dissoudre les molécules indésirables qui sont liposolubles. Qui sont accumulés, de nettoyer les bactéries, tout ce qui ne part pas à l'eau ou qui ne passe pas en fait, avec la brosse à dents. Ça va aller dans les petits recoins et je vous assure que pour une haleine de DS, il n'y a rien de mieux.
Bon bah écoutez, je vous tiens au courant, je vais m'y coller. Merci beaucoup.
Ah oui.
Merci Angèle Ferromac pour tous ces conseils.
Merci
pour
Flavie,
nos auditeurs et pour nous-mêmes. On vous embrasse et je rappelle qu'il y a votre page Instagram aussi où l'on peut retrouver toutes vos actus. À bientôt Angèle, salut.
À bientôt Flavie.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Petit clin d'œil à Chantal Goya. Bonjour Sonia Esguillan.
Bonjour Flavie.
On va croquer les hommes ce matin ?
Ah oui, à fond.
Mais dites-moi, pourquoi est-ce qu'on appelle ça un croque-monsieur ?
Oh bah c'est une histoire toute rigolote.
Ah
en fait, c'est un bistrotier qui a fait cette invention. Il avait une réputation, une mauvaise réputation certainement héritée de voisins jaloux, d'être une sorte de cannibale en fait. Et un jour, il reçoit des gens dans son restaurant. Il n'avait pas grand-chose à leur proposer. C'était à la suite d'un dîner-spectacle. Et il a l'idée de composer rapidement avec ce qui lui restait, un peu de pain, du jambon, etc., d'en faire un toast. Alors, comme il n'avait pas de baguette, il a pris un pain de mie, il voulait que ça soit très croustillant, il a eu l'idée de le faire griller et il a lancé le premier, ce premier petit sandwich. Et quand on lui a demandé, mais écoutez, c'est merveilleux, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir à l'intérieur, il a dit, bah, c'est de la viande de messieurs. Et c'est comme ça que c'est devenu un croque-monsieur. Depuis 1901, donc ça fait 120 ans qu'on mange du croque-monsieur, il y a eu tout un tas de variantes, mais ce croque-monsieur a vraiment une très très belle histoire au niveau des gourmands.
Et alors la croque-madame, elle est arrivée comment dans l'histoire ?
Ah bah, la croque-madame, c'est parce que c'est une élégante. On dépose sur le croque-monsieur un œuf au plat et alors on dit que ça représenterait le chapeau d'une dame élégante.
Je vais vous provoquer, mais c'est joli, moi j'adore ce genre d'histoire et je vais vous provoquer un peu. Est-ce qu'il existe des croque-mademoiselles ?
Oui, alors bah oui, forcément. Alors il n'existe pas des croque-jeune homme. Le croque-mademoiselle, c'est un croque-monsieur végétarien. Donc en général, on met ou des légumes cuits ou des légumes crus, du fromage, mais on ne met pas de viande.
Bon, alors avis à tous ceux qui nous écoutent, si vous voulez inventer le croque jeune homme, eh bien n'hésitez pas, vous nous envoyez ça sur les réseaux de Nous Voilà Bien et sur rtl.fr. On va se retrouver dans un instant parce que vous allez nous expliquer comment faire plein de variations autour du croque-monsieur. En fait, on va l'anoblir, ce croque-monsieur, grâce à vous dans un instant, Sonia Esguillan. À tout de suite sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien.
On apprend plein de choses dans cette émission depuis le début. On apprend plein de choses sur les villages de Marc, on apprend plein de choses sur les huiles végétales. Et là, nous apprenons l'origine du croque-monsieur, du croque-madame et du croque-mademoiselle. Grâce à vous, Sonia Esguignan. C'est fou parce qu'en fait, il y a plein de choses à faire avec le croque. Sonia, non mais c'est vrai, en fait on a tendance à faire tout le temps la même chose et parfois même on a du mal à faire un vrai croque-monsieur. Est-ce qu'il y a déjà la recette tradie ?
La vraie recette, alors ça pourrait être vraiment la petite chose improvisée, mais oui. En fait le croque-monsieur, surtout dans les brasseries parisiennes, il est devenu très sophistiqué, c'est-à-dire que sur des tranches d'un pain avec une mie très serrée, donc ça peut être un pain au levain ou un pain complet, on va disposer en fait un petit peu de béchamel, un très bon jambon de Paris. Ensuite on va mettre un fromage râpé, alors par exemple ça peut être du comté, ça peut être du gruyère, on peut mettre toute une variété de fromage, on n'est pas obligé de mettre que le fromage râpé qu'on connaît. Et ensuite on va donc remettre une tranche de pain, alors après selon les variantes on étale un tout petit peu de béchamel, un tout petit peu de fromage, et soit on le met sous les grilles, sous le grill très très rougi, très chauffé du four. Les cafetiers dans leur bar, en fait, ils ont des petites salamandres, donc évidemment ça chauffe et ça croustille très très vite. Et sinon, il existe un ustensile incroyable qui est un moule en fait à croque-monsieur. On dirait en fait deux plaques. de fonte avec un très, de très longue tige pour pouvoir être tenue en main et pouvoir être retournée au-dessus de la flamme. Donc ça, c'est génial, mais c'est à l'ancienne. Enfin, c'est quand même un, ça représente presque du folklore. Parce que quand on en a un à la maison, c'est sympa, mais on le fait un par un. Ça peut être un peu long et fastidieux. Donc je pense que sous les grilles du four, sous le grill très très rouge, là, normalement, ça va.
Très bien. On peut utiliser un autre pain que le pain de mie, si j'ai envie, je ne sais pas, dans les variations, de mettre du pain brioché, du pain au levain.
Alors, le pain de mie, je trouve que ce n'est pas forcément le plus extraordinaire.
On
Moi, je préfère
d'accord.
les pains levain complets, etc. Alors, le pain brioché, pourquoi pas ? Dans ce cas-là, peut-être s'autoriser encore une petite variation. C'est-à-dire que pour le pain brioché, on ne va pas rajouter par-dessus de la béchamel parce que ça va trop détremper le pain qui est déjà très moelleux. Alors dans ce cas-là, on ose un truc un peu délirant. On va faire une sorte de pain perdu.
Soyons fous.
Mais oui, on fait une sorte de pain perdu, c'est-à-dire qu'on va couper des tranches de pain brioché, on va légèrement les tremper dans de l'œuf battu avec un petit peu de lait, on va les faire revenir à la poêle et on va mettre, pendant qu'elles sont en train de dorer dans la poêle, on va mettre le jambon, du fromage, etc. On met le deuxième pain par-dessus et on retourne comme ça. Sous l'effet de la chaleur dans la poêle, ça va faire fondre un petit peu le fromage et là c'est top, on a un croque-monsieur vraiment très très moelleux.
Et pour ceux qui ne supportent pas l'œuf, est-ce qu'on peut le faire dans du lait ?
Oui, ça va tout à fait croustiller.
D'accord.
Et ce sera un petit peu moins coloré.
Je pensais au fromage aussi, on peut changer
Alors moi je ne mange pas de fromage fondu par exemple, mon mari adore les croque-monsieur, lui je lui fais triple dose de fromage et on peut évidemment faire un croque-monsieur sans fromage. Alors dans ce cas-là, moi je trouve des choses très moelleuses à mettre à l'intérieur. Par exemple une purée d'aubergine, par exemple du houmous, par exemple, vous voyez ce genre de petite préparation que je vais tartiner sur du pain. Je mets par exemple du jambon cru à la place du jambon blanc, je ferme ce petit sandwich et ensuite je le fais dorer tout doucement à la poêle. Alors là, je vais préférer un filet d'huile d'olive et je vais faire bien bien croustiller mon croque-monsieur qui aura à l'intérieur un peu plus, par exemple, une purée de légumes ou autre.
Alors justement, parce que si j'ai pas envie de, si je suis veggie, on a bien compris, il y a le croque mademoiselle. Si je suis pesco-végétarienne, est-ce que je peux mettre du poisson ?
Ben oui, on peut tout mettre. Alors, on peut faire soit du poisson coupé en petits morceaux, pourquoi pas. Moi, j'aime bien, par exemple, si on utilise du thon en boîte ou pourquoi pas de la sardine en boîte, on peut émietter le thon ou la sardine dans la béchamel avant de napper le pain. Et si c'est vraiment des tranches de poisson, par exemple, il y a des poissons qui ont du caractère comme le haddock ou le hareng mariné, c'est très très bon. Eh bien, bien évidemment, alors là, on va pourquoi pas beurrer, parce que le beurre fonctionne bien avec les poissons fumés, donc on va beurrer le pain. Bah oui, c'est ça qui est bon. On met le poisson, on va mettre, alors là, pour le coup, on peut aussi rajouter un petit peu d'air. Moi, j'aime bien, par exemple, mettre de la roquette et tout à l'intérieur, ça booste un petit peu, ça donne un petit coup de peps à l'ensemble, et on remet la couche de pain au-dessus et on fait dorer tout doucement à la poêle. Le beurre va en fait dégouliner un petit peu dans le pain et va le faire toaster en fait. Ça, c'est très 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 bon.
Et je peux faire de l'exotique aussi ? Genre du sucré salé ?
La pizza à l'ananas. Hein. Non, il y a des trucs, non, je veux bien être
d'accord.
Sympa.
Ok, bon, très bien. Vous avez une recette alors qui, elle, n'est pas du tout exotique. Elle est intéressante parce qu'elle est originale, mais elle n'est pas exotique, elle n'est pas sucré salé. Parce que là, on part dans le nord et faire un croque au marmoil.
Mais oui, non, mais parce que
c'est génial.
Le croque-monsieur, on n'a pas dit quelque chose d'important.
Ouais.
Le fromage, on n'est pas obligé d'acheter un vilain fromage tout carré, tout plat, là, qu'on
nous vend spécial croque-monsieur.
Franchement, l'intérêt du croque-monsieur, c'est les bons produits qui sont à l'intérieur.
Ouais.
Donc, on choisit un bon jambon, on choisit un bon pain, mais surtout, on choisit un bon fromage. Et j'ai un croque-monsieur que j'adore, c'est le croque-monsieur au maroilles. Alors, ça sent un peu, mais c'est que l'odeur, hein, parce qu'après, le goût, c'est vraiment top. On prend de belles tranches de pain de campagne, ça, c'est important. Des tranches un petit peu épaisses, on n'hésite pas, on va bien jusqu'à un bon demi-centimètre.
Okay.
On va préparer la petite béchamel. Alors, la béchamel, c'est pas non plus, on s'en fait toute une montagne, mais c'est pas non plus très compliqué. On fait fondre dans une petite casserole un petit peu de beurre. Donc là, par exemple, on va dire pour 3 croque-monsieur, on va faire 30 grammes de beurre. Allez, soyons fous, 30 grammes de beurre, je rajoute un peu de farine, à peu près la même quantité, 30 grammes de farine. Je laisse un petit peu cuire, la farine va très légèrement blondir, mais à peine, hein, il n'y a pas de coloration. J'ajoute du lait froid, 40 centilitres de lait bien froid. Je laisse porter à ébullition tout en fouettant pour éviter les grumeaux. Et là, j'ai tout de suite une béchamel très bonne. Là, je vais couper en petits dés. Je peux mettre quelques petits dés de maroilles dans la béchamel. J'assaisonne sel et poivre. Sinon, on peut mettre sur le pain de campagne la béchamel. On rajoute des fines lamelles de maroilles, un bon jambon cru. On remet un peu de béchamel, on met tout ça au four. Et alors, le petit secret, c'est que, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez dans le Nord, il y a un sucre extraordinaire qui s'appelle la vergeoise. En fait, ça, j'en mets toujours un tout petit peu dans les préparations. Ça fait un tout petit effet caramélisation. C'est absolument délicieux. C'est on enfourne les croque-monsieur une dizaine de minutes à 220 degrés. Et là, c'est le bonheur.
Avec une petite salade ?
Avec une petite salade, il faut être raisonnable quand même, parce que là, et on prévoit une petite marche, pas tout de suite la sieste après.
Voilà,
on
exactement.
On fait d'abord une petite marche et après la sieste.
Voilà, dans cette belle région du Nord. Merci beaucoup Sonia Esguillian pour vos conseils en ce samedi matin. Je rappelle que vous avez une page Instagram à votre nom et qu'on y retrouve chaque semaine la recette que vous nous donnez sur RTL. Donc c'est super. À très bientôt Sonia,
à
je
bientôt,
vous embrasse.
Flavie.
Je vous embrasse, au revoir.
À bientôt.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Et voilà, c'est la fin de Nous voilà bien, c'est déjà fini, c'est fou comme le temps passe vite en votre compagnie. C'était bon, c'était gourmand aujourd'hui. Retrouvez cette émission en podcast sur l'appli RTL et sur les sites partenaires. Les recettes du croque-monsieur sont quant à elles disponibles sur rtl.fr et sur la page Insta de Sonia Esguillian. Moi je vous retrouve lundi dès 20h sur RTL avec Jour J, le seul magazine qui vous fait revivre ces grands événements qui nous ont tous marqués, révoltés ou émus. Et puis samedi prochain, 9h15 pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Juste après les infos, c'est RTL qui vous régale. Prenez bien soin de vous. Passez un excellent week-end. Je vous embrasse.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.